les autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui pour les autres voix de la presse, nous recevons Cyril Bosque. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Cyril, donc on s'est déjà rencontré une fois ou deux, je suis déjà passé te voir également. Et,
oui,
là...
j'en ai quelques souvenirs.
Ouais. Et là, la raison de notre discussion aujourd'hui, c'est que début juillet, c'est l'inauguration du Centre des Arts Satiriques. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es venu à ouvrir un Centre des Arts Satiriques? T'es un passionné de la satire, mais plus particulièrement aussi du dessin de presse satirique.
Ouais. Eh ben moi j'ai une collection, un fonds d'archives de presse satirique contemporaine, donc de 45 à nos jours, assez importante. J'ai plus de 15 000 références. Et l'idée c'est de mettre ça en valeur. Donc il y a très très longtemps, il y a plus de 15 ans, on avait l'idée de faire ça dans nos caves, donc sous notre maison, dans notre petit village en Ardèche. Et puis ça a mûri doucement, et puis la municipalité de l'époque avait une maison dont elle savait pas quoi faire, ce qui fait qu'on a eu l'idée de racheter cette maison et d'en faire un centre d'échange, donc avec exposition, petites conférences, films, etc., pour discuter autour de la satire, alors principalement le dessin satirique, parce que c'est là où je suis un peu compétent, mais aussi, ça peut être aussi la sculpture, le one-man show, la chanson, toutes les formes d'art qui prennent les choses avec un côté décalé.
Mais c'est, pour toi, le dessin satirique et la presse satirique, ça remonte déjà à quelques années, c'est une passion que tu as, dans laquelle tu t'es plongé il y a combien de temps? 10 ans? 20 ans?
30 ans, 40 ans. Non, quand j'avais 12 ans, j'étais lecteur de Fluide Glacial, 12-13 ans. Et puis, vers mes 20 ans, je suis tombé dans... Il y avait la grosse Bertha qui venait d'être créée par François Forcadell et Cabu, où on retrouvait tous les très bons dessinateurs, les anciens de Charlie Hebdo, et puis les petits nouveaux qui arrivaient. Et donc, moi, j'étais lecteur, j'étais abonné de la grosse Bertha, qui, après une séparation, certains ont relancé Charlie Hebdo. Et j'ai toujours lu cette presse-là, parce que j'ai besoin de ce côté décalé de la satire, qui permet de rire des choses, y compris les plus sérieuses, surtout les plus sérieuses et les plus graves, et pour supporter cette saloperie de monde, quoi.
Et tu nous parlais de 15 000 références. Comment est-ce que tu as pu acquérir 15 000 références?
Je gardais tout ce que j'achetais en kiosque depuis mes 20 ans, donc ça fait 54 ans bientôt, 34 ans bientôt. Et donc je gardais tout. Et puis il y a une période où j'avais un peu de temps et un peu de sous, ce qui fait que j'ai reconstitué des collections d'anciennes revues. Alors ça a été principalement Harakiri, Charlie Hebdo, mais aussi des tas d'autres publications, donc qui ont des fois qu'un numéro unique. Et donc ça fait à peu près 400 titres différents pour 15 000 références. Et j'achetais quand ça sortait en kiosque, et puis ensuite j'ai longtemps écumé les vide-greniers, les bouquinistes, des trucs comme ça. Et maintenant je suis un peu frustré parce que j'ai plus trop le temps de fouiner pour trouver les perles un peu qui me manquent. Mais par contre je récupère énormément de collections et de revues chez des gens qui par le bouche à oreille me connaissent et veulent pas mettre leurs journaux à la benne. Et du coup je récupère ça, et maintenant c'est comme ça que les nouvelles acquisitions, en fait, c'est pour éviter que ça parte à la benne.
Mais c'est vrai que moi, je te suis un petit peu d'un œil distrait sur les réseaux sociaux. Régulièrement, tu publies des messages présentant ce que tu viens de recevoir. Donc, tu reçois, et en même temps, donc, ta collection, c'est uniquement la satire francophone?
Non, absolument pas. Non, non. Non, non, j'ai des journaux belges, allemands, suisses, espagnols, turcs. Il y a un très bon journal au Bénin Je les tanne pour qu'ils m'en envoient des exemplaires, mais la poste depuis le Bénin, c'est pas terrible. Donc j'en ai récupéré quelques exemplaires, mais je pense qu'il va falloir que j'aille chercher l'ensemble de la collection. Mais du coup, moi je parle français et anglais, donc l'allemand, quand j'ai récupéré les Charlie Hebdo version allemande, j'en profite pas des masses, quoi, parce que je parle pas allemand, que sous la torture. Mais voilà, je m'interdis pas de récupérer ça. Si, tiens, j'ai récupéré très récemment l'équivalent du fluide glacial grec. Donc il y a eu 250 numéros d'une revue, l'équivalent de fluide glacial en Grèce.
Là, tu nous parles de revue équivalente à fluide glacial, donc c'est pas une traduction de fluide glacial, mais parce qu'il me semble que la dernière fois que j'étais passé te voir, tu m'avais montré, par contre, je crois que c'est Harakiri, qui a été traduit ou adapté en plusieurs langues, dans plusieurs
Alors,
pays.
Harakiri, il y a une version italienne qui a eu très peu de numéros dans les années 70, avec l'autorisation de Cavanna et de la bande d'Harakiri. Ensuite, il y a eu une version espagnole d'Harakiri, mais qui avait rien à voir. C'est de la BD érotique, voire pornographique, qui est dans les années 80. Ça, je pense qu'ils ont utilisé le titre, mais ils n'avaient absolument pas l'autorisation de l'utiliser. Et il y a eu trois numéros en Turquie. Donc là, c'était fait par la bande du magazine Leman, où ils sont maintenant tous en prison. Mais c'était des grands amis de Volinsky, et du coup, ils avaient fait ces numéros-là. Ils ont entre autres fait un numéro hommage à Volinsky, mais il y a eu trois numéros d'Harakiri en turc. Donc ça, c'est une rareté improbable.
Et parmi donc ces raretés, il y en a certaines que tu vas présenter. Elles seront en consultation là le début juillet. On va en parler maintenant un petit peu, justement ce week-end d'inauguration du Centre des Arts Satiriques. Comment ça va se passer un petit peu justement on pourra consulter tes collections?
Bien sûr, ouais, moi c'est ce qui me c'est ce qui me alors voilà, je suis pas un fan des expos où on est planté devant un tableau au mur. J'aime bien pouvoir toucher le papier. Donc on fera il y aura une expo quand même, avec ce sera l'expo 01 en hommage à GB, avec des numéros 0 et des numéros 1, qui reprendront du coup l'histoire de la presse contemporaine, les grands numéros. Et puis dans la mesure du possible, parce que je mettrai pas à disposition ma collection propre, c'est que les doubles que je mets à feuilleter, si tu veux. Voilà, pour pouvoir garder ma collection dans le meilleur état possible. Mais effectivement, le jeu, ce sera d'avoir la revue au tableau, enfin au mur, et de pouvoir feuilleter l'original qui sera sur une table à côté. Ça pour la partie expo.
Alors, le Centre des Arts Satiriques, on n'a pas précisé, c'est à B, on dit B ou Bex, je ne sais jamais.
Bex,
C'est à Bex,
Bex.
donc c'est en Ardèche,
Ouais.
hein, 273 avenue Jean Moulin. L'inauguration, donc c'est vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juillet. Il y a des rencontres, il y a des discussions, il y a également pas mal d'invités, des invités qui sont principalement des dessinateurs, des caricaturistes.
Ouais. Alors, pour te faire le programme, on fait l'inauguration officielle avec les chips molles et la clairette chaude à 18 h le vendredi. Le soir, on fera une discussion autour de Cavanna, parce que c'est quand même parler de presse satirique en France sans parler de Cavanna, c'est un peu dommage. C'était quand même le créateur d'Harakiri dans les années 60 et de Charlie Hebdo dans les années 70. Et il y aura une bonne copine à moi, et aussi à Cavanna, qui était une confidente et collaboratrice de Cavanna, Virginie Vernet, qui sera là aussi pour discuter de ce grand homme. Et sont invités aussi sur tout le week-end, donc il y a cinq dessinateurs. Il y a la triplette magique Berthe Lasserre Faujour, voilà, qui sont parmi les meilleurs de France, je trouve. Il y aura aussi Yo, qui est un caricaturiste, qui est le seul en France à vivre uniquement de la caricature. Il a une caricature par jour dans un journal improbable qui s'appelle Les Échos, de Bernard Arnault. Mais du coup, voilà, c'est le seul caricaturiste qui vit uniquement de la caricature et pas du dessin satirique. Et puis, il y a un copain que j'avais rencontré il y a quelque temps, Abdoul Kader Barrow, qui est burkinabé. Alors, il est en train de faire ses papiers. J'espère qu'il pourra tout avoir pour pouvoir venir. Mais ce sera l'occasion, voilà, de parler de la presse du Burkina Faso et en Afrique en général.
Et donc c'est principalement le samedi 4 juillet, là, à partir de 16h, où il y a les rencontres avec des dessinateurs invités.
Ils seront là tout le week-end, donc on pourra, le public pourra échanger, se faire dédicacer des bouquins tout le week-end. Et à 16h, effectivement, samedi, on fera une rencontre un peu plus formelle pour leur faire présenter vraiment ce qu'est leur travail, ce qu'est leur parcours, etc. Donc à 16h le samedi, avant un concert.
Ok, et le concert, c'est avec un groupe local qui fait des reprises, c'est ça?
Absolument pas.
Non.
C'est un groupe absolument pas local. C'est un groupe qu'a monté mon père. C'est mon père avec deux très vieux copains avec qui ils ont commencé à jouer de la guitare à 13 ans. Et donc là, ils ont ce groupe-là qui tourne depuis très longtemps, de manière, juste sur des coups comme ça. Et donc c'est Brassens, Brel, Félix Leclerc, Fontéval. Je trouvais que, au-delà du plaisir d'associer mon père à ça, je trouvais que Brassens, voilà, ça rentre bien dans l'aspect satirique du lieu, quoi.
Tout à fait. Et donc ça, c'est le samedi. Et donc après le dimanche, visite libre de l'exposition. Il n'y a pas d'horaire, donc c'est matin, après-midi.
C'est 10h-18h, quelque chose comme ça. Les dimanches, généralement, voilà, c'est en roue libre. Et, de toute façon, les dessinateurs vont partir assez tôt dans l'après-midi, parce que certains viennent de loin. Donc ce sera, voilà, un truc un peu plus cool le dimanche. En freestyle et en roue libre.
On se croise, ou je te suis un peu de loin, justement. Tu es souvent sur des événements où tu vas présenter des dessins, des collections, justement, de presse satirique. Là, c'est l'inauguration donc du Centre des Arts Satiriques, donc à Bex, en Ardèche. Est-ce qu'il y a déjà programmé d'autres rencontres, d'autres expositions?
Oui. Alors pour le moment, le centre, en fait, on marchera par période, comme ça, par coup. On se sera pas ouvert en permanence. Ça a vocation à être un truc dans ce genre-là, ouvert, je sais pas, par exemple, jeudi, vendredi, samedi, ou un truc dans ce genre-là. Pour le moment, on n'a pas la structure ni le nombre de bénévoles motivés pour faire ça. Donc on fonctionne par coup. Donc là il y a l'inauguration. Au mois de novembre, on va organiser un festival de BD d'humour. Alors, on reprend, en fait, l'organisation du festival qui se déroulait à Burzet, dans la montagne ardéchoise, qui avait été créé par le dessinateur Le Rouge, avec J.O. et Tinius. Et ils ont été obligés d'arrêter pour des questions de salles qui étaient plus adaptées. Et donc, ils en ont fait une vingtaine, quand même, de festivals. Et là, au mois de novembre, on reprend l'organisation telle qu'elle était. Jacques Lerouge reste directeur artistique, et on fera ce festival sur deux lieux, donc le Centre des Arts Satiriques et dans une grande salle Saint-Julien en Saint-Alban, voilà, donc un village pas loin, pareil, toujours proche de la vallée du Rhône. Et c'est le seul festival de BD d'humour de France. Parce qu'il y a beaucoup de festivals de BD, mais spécialisés BD d'humour, c'est le seul, donc ça valait le coup de continuer à le faire vivre.
Bon, ben d'ici le mois de novembre et ce festival, donc on rappelle, hein, l'inauguration du Centre des Arts Satiriques, c'est du 3 au 5 juillet 2026 à Bex, en Ardèche. Pour l'inauguration, ou pour des personnes qui souhaiteraient peut-être passer, prendre rendez-vous, discuter avec toi, voir certaines pièces de ta collection et le Centre des Arts Satiriques, il y a un site internet, une adresse email, un téléphone, il vaut mieux passer par quel...
Il y a des infos sur un site internet qui est un embryon de site internet, mais bon, ça a le mérite d'exister. C'est pressesatirique.org, pressesatirique.org. Après, je peux laisser mon numéro de téléphone sans trop de soucis. Je peux, voilà, 06 43 96 26 85. Donc voilà, faut pas hésiter à m'appeler, laisser un message et je vous rappellerai dès que possible.
Eh ben écoute, j'espère qu'on va pouvoir se croiser. Je suis à Colmar, comme certains le savent. Je vais essayer de faire le déplacement pour participer à cette inauguration. Et je pense qu'en plus, je vais prendre énormément de plaisir si je peux me déplacer, autant rencontrer
Je
les
pense que
invités.
ça va être sympa, ouais.
Ouais,
Ça va être un moment sympa.
que de mettre mon nez un peu dans tes archives, même si j'ai déjà mis un petit peu le nez, mais il y en a tellement, tellement, tellement que c'est un travail de longue haleine. Ben, merci beaucoup Cyril. Je pense que
Merci
tu
à
as
toi.
encore un petit peu de travail là pour finir d'organiser tout ça. Et puis ben, rendez-vous donc du 3 au 5 juillet à Bex en Ardèche. À bientôt.
Venez nombreux. Salut.
Les autres voix de la presse, une émission réalisée par mon papa.
Ben là, avec les autres voix de la presse, on est au Négral, aux assises du SPPP, donc dans l'Aveyron. Et ce matin, c'est dimanche matin, c'est la fin des assises et on a réussi à attraper au dernier moment Nico. Salut Nico.
Salut.
Donc Nico, toi, ça fait déjà un bon moment que tu œuvres dans le milieu de l'audiovisuel et plus particulièrement avec Primitivi à Marseille. Est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter un petit peu l'histoire de Primitivi?
Eh bien, Primitivi, on est des anciens, puisque Primitivi, ça a 26 ans cette année, ou 27 peut-être. Voilà, donc c'est né vraiment à la fin des années 90, tout début 2000. Et ça a commencé sur une revendication de télé libre. C'était à une époque où il y a eu, comme dans les années 80, le mouvement des radios libres, où des téloches, des associations exigeaient le droit d'émettre sur le réseau hertzien, ce qui était interdit par la loi. C'était le CSA qui régulait les choses. Et donc il y avait des télépirates, ce qu'on appelait télépirates, comme il y avait eu les radios pirates avant. Donc nous, on a commencé là-dedans. On s'est vachement éclaté et on est toujours 25 ans après une asso de gens tous quasi bénévoles et qui font de l'audiovisuel, c'est-à-dire des films courts. Hein. La majeure partie de notre activité, c'est de faire des petits films courts d'actualité politique, sociale, culturelle. Donc on fait des petites chroniques de quelques minutes. On en fait certaines années 10 ou 15 ou 20 ou 30. Il y a eu des années où il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et ça raconte des luttes d'habitants, ça parle beaucoup de la ville, ça parle beaucoup d'habiter, ça parle beaucoup de quartier, du sentiment d'appartenance, de comment les habitants s'auto-organisent, se mobilisent, fabriquent des fêtes, fabriquent des luttes, fabriquent des choses comme ça.
Et c'est principalement sur Marseille que vous travaillez ou est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres secteurs ?
On travaille sur d'autres secteurs, mais Primitivi est quand même très très ancré à Marseille, très très ancré dans le quartier de la Plaine à Marseille, dont une bonne partie des membres sont habitants depuis très longtemps. Mais ça s'étend sur d'autres quartiers, pas mal dans les quartiers nord de Marseille. Et puis on a une antenne à Fort-Calquier maintenant, puisque des camarades sont allés vivre à Fort-Calquier, mais du coup continuent à être actifs là-bas. Et puis des alliances ou des on a tout un réseau de camarades dans plein de villes d'Europe et puis on a des liens très proches avec le Chili puisqu'il y a depuis très longtemps avec le Chili et avec l'Amérique latine parce que un peu par hasard, je crois, mais dans Primitivi, depuis très longtemps, il y a beaucoup d'attaches avec la Colombie, l'Équateur et le Chili.
Et ça se traduit comment au sein de votre travail, ces attaches justement avec ces pays que tu viens de citer ?
Le Chili, là, il y a eu trois films qui ont été réalisés ces 3-4 dernières années. Un long métrage qui s'appelle Mémoire d'un jardin, qui était un jardin qui a été un peu un symbole historique de la résistance. De ces dernières années, qui a été repris par la police, repris par les manifestants, où ont été enterrés des gens qui ont été tués par la police, et qui finalement a été dépossédé, a été rasé entièrement. On a construit une station de métro à ce jardin. Voilà, c'est un film qui se passe à Santiago et qui est vraiment un film. Et puis après là par exemple Gaël, le camarade qui est en couple avec une camarade chilienne, ils y sont retournés, ils ont fait un petit film court sur une ancienne caserne d'emprisonnement et de torture où des militants ont été emprisonnés, torturés et qui a été sauvegarder de la spéculation immobilière par devoir de mémoire, quoi. Donc, pour devenir comme un espèce de musée de la répression et tout ça. Voilà, et puis après, non, toutes les autres accroches dont je parlais, c'est plutôt des gens qui nous invitent pour montrer nos films ou qu'on invite pour montrer leurs films. Mais il y a tout un tas de collectifs en Italie, en Belgique. Voilà, on essaye de balader nos films et on essaye aussi beaucoup de montrer nos films ailleurs que sur Internet. C'est-à-dire de les montrer, ces films courts, on essaye de les montrer en première partie de film dans des cinoches, dans des projections de camarades. Et puis nous, sinon, on essaye beaucoup, beaucoup de faire des projections et on aime beaucoup les projections de rue. On aime beaucoup être dans la rue, en fait, on a toujours beaucoup aimé être dans la rue. Donc nos petits films, ils sont faits au contact des habitants dans la rue. Et puis après, on aime bien des projections où viennent des gens qui viennent se retrouvent à voir un film politique, mais par hasard. Ils allaient au bistrot ou ils vont jamais au cinéma, ils vont jamais dans un lieu politique ou militant. Et là, on rencontre des gens et des gens se retrouvent confrontés à du cinéma ou à des trucs militants par hasard. On aime bien ça.
Ce que tu disais tout à l'heure, que en gros, dans les années 90, il y a eu le mouvement des télés libres. Alors moi, je pense à Zaléa TV, entre autres. Là, il y a encore Télé Bocal, il y a Télé Mille Vaches. Est-ce qu'il y a encore un mouvement national ? Est-ce qu'il y a encore des revendications pour accéder, je ne sais pas moi, à des canaux de diffusion sur des bouquets ou à la télé ?
Non, très très peu, très très peu. Très très peu d'alliances. Il y a très très peu de, tous les membres que tu viens de citer sont quand même vraiment des vieux de la vieille, hein. Après il y a tout un milieu de gens qui font de la vidéo sur internet, soit sur des chaînes Twitch, soit en fabriquant leurs films et en les publiant directement sur des réseaux sociaux, mais c'est deux mondes et deux époques qui ont un peu du mal à communiquer. Il n'y a pas tellement de jonction. Nous, on a participé à... Là, on se retrouve aujourd'hui aux rencontres du syndicat de la presse, pas pareil. Tu disais avant, il y a eu la coordination permanente des médias libres. À un moment, il y a eu la fédération de l'audiovisuel participatif. À un moment, il y a eu je sais même plus comment ça s'appelait, les médias solidaires de PACA et pas que. Enfin, nous, on a toujours été vachement... on s'est toujours beaucoup occupé d'essayer de coordonner et joindre les efforts de différents gens. Aujourd'hui, l'audiovisuel militant, à part dans le cinéma documentaire et sur des canaux exclusivement internet, c'est peu coordonné, quoi.
Parce que tu disais, vous faites souvent des projections de rue, mais j'ai l'impression que vous faites aussi des projections dans des bistrots, dans des lieux atypiques. Là, c'est quoi ? C'est vous arrivez comme anciennement Télé Mille Vaches, Télé Brouette. Vous arrivez avec votre matériel, une télé, un lecteur DVD, et puis vous posez ça sur le comptoir et hop, c'est parti.
Bah, une télé, un lecteur DVD, non, ça c'est fini, c'est un ordi, un vidéoprojecteur. Mais sinon, c'est à peu près ça. Mais en fait, ça marche bien. Les bistrots, il y a plein de bistrots qui font jamais ça, mais qui savent que ça leur fera venir plus de monde. Et donc, on essaye de passer des films. Enfin, ça dépend des lieux, de si c'est sérieux ou pas trop sérieux, ou plutôt des films courts ou plutôt des films longs. Mais on aime bien multiplier ces endroits-là. Ça mélange des publics. Par exemple, on a fait pendant très longtemps un ciné-club à la DAR, là, qui est un lieu associatif autogéré à Marseille. On en faisait un par semaine ou un tous les deux semaines pendant 2 ans ou 3 ans. Mais c'est vrai que ça tournait un peu, c'était un peu toujours les mêmes gens qui venaient, quoi. Comme dans tous les milieux, comme ça, où tu te retrouves avec un public qui est un peu toujours le même. Et ce qui est très bien aussi de fidéliser, de se retrouver. Mais c'est aussi chouette quand tu vas dans des endroits que tu connais pas et où il y a 20 personnes qui viennent que tu connais pas du tout et que tu es bien content de rencontrer, quoi.
Et donc après, tu disais aussi, vous êtes en contact, vous faites des diffusions ailleurs, vos films tournent, ils sont diffusés comment ? Est-ce que vous travaillez par exemple avec les Mutins de Pangée ? Est-ce qu'il y a un diffuseur avec lequel vous travaillez ?
Alors là, il y a plusieurs cas de figure et ça change pas mal parce que oui, effectivement, on fait des films longs maintenant, on en a 5 ou 6, donc ça commence à vraiment faire... c'est une activité importante de la production de Primitivi. Et ces films, maintenant, il y en a les deux derniers, on a trouvé de l'argent avec des productions, pas beaucoup et tout, mais parce que jusqu'ici, tout était entièrement autoproduit, autogéré, automonté, autodistribué, diffusé et tout ça. Donc là, on a eu deux expériences en le faisant dans des circuits un peu plus marchands, on va dire traditionnels, et ça marche vachement moins bien. C'est-à-dire que avec la bataille de la plaine ou La fête est finie, deux films qui ont été faits vraiment avec les ongles, avec zéro thune, on les a énormément fait tourner. Énormément, parce que en fait, en 25 ans, c'est construit un réseau de camarades ou de camarades de camarades ou de camarades de camarades de camarades. Mais la bataille de la plaine, on a fait, je sais pas, 300 ou 400 projections. C'est vraiment beaucoup, même pour un gros documentaire fait avec de l'argent et tout. C'est vraiment des gros scores. Et en fait, là, il y a deux films. Y a un film qui a été fait ou pour lequel on a trouvé un distributeur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de chercher des salles pour montrer ton film, mais dans des circuits beaucoup plus officiels, dans des circuits de cinéma. Et en fait, ils y arrivent vachement moins bien que nous. C'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes. Le cinéma, dans le monde du cinéma, c'est pour les gens qui vont dans les cinémas, point barre. Dans le milieu autogéré, associatif, d'autoproduction et d'autodistribution, nous, on a des gens qu'on aime et qui nous aiment dans des cinémas, mais on en a dans des centres sociaux, on en a dans des squats, on en a dans des assos de quartier, on en a dans des endroits où finalement ça radine plus de gens que ce qu'est capable de faire un distributeur avec des cinémas qui, en général, eux, n'ont pas du tout le temps de s'occuper de faire de la com pour chacun des films qu'ils annoncent, quoi.
Là, tu parlais du film La bataille de la plaine. Dans nos discussions là, depuis les 2-3 derniers jours, j'ai compris aussi que vous aviez énormément de films, des fois des formats courts. Vous êtes un peu une mémoire visuelle des luttes, des quartiers sur Marseille.
Oui, ben on a, 250 ou 300 petits films courts. Souvent de piètre qualité, souvent tourné vite, monté vite, diffusé vite, avec un peu une exigence d'actu, quoi, comme un truc d'actualité. Et puis avec une espérance de vie très courte, parce que bon, au bout d'un moment, c'est dépassé. Sauf que non, parce que en fait, au bout de 25 ans, on regarde le matériau qu'on a accumulé, et il y a certains trucs qui sont devenus des perles, des trucs extrêmement importants, historiquement parlant, des choses dont on est vraiment les seuls à avoir gardé la mémoire, et on est super fiers et contents de ça. Et le dernier film, là, Les fils qui se touchent, que j'ai fait, qui est produit par Primitivi, il parle énormément de ça, quoi, de comment raconter ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est des débats qui étaient intéressants aussi avec tous les autres, avec la presse, pas pareil et tout, mais que raconter, ne serait-ce que raconter la réalité comme nous on la voit, et en garder la trace, et défendre cette façon de voir une réalité. Moi, je pense que c'est aussi ça, faire du média militant, c'est de lire le présent pour que demain, le passé nous éclaire, ou quelque chose comme ça.
Et tu parles de tous ces petits films, plus les longs-métrages, ils sont tous disponibles sur le site de Primitivi. Comment est-ce qu'on peut justement les trouver ?
Alors, tout est en accès libre sur primitivi.org. Nous, on a toujours défendu de laisser nos films en libre accès. Les films longs, en général, on essaye de faire un peu de maille dessus quand même. Donc, on les garde un an ou deux en essayant de demander aux gens de pas en les mettant en accès libre, parce que sinon, les gens ne viendront plus les voir si on fait des projections où qu'elles soient. Mais sinon, la fête est finie, la bataille de la plaine, ils sont visionnables, téléchargeables, gratos, sur Internet. Ils sont aussi sur mutin.org dont tu parlais, parce que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, au lieu d'aller les piquer directement sur Primitivi, allez payer 3 balles à prix libre sur mutin.org. Ça fera vivre les camarades qui font de la distribution militante depuis 20 piges aussi. Et puis quoi, qu'est-ce que
c'était savoir où on pouvait justement les trouver.
On peut trouver la trace de tous ces films sur primitivi.org. Il y a un onglet films longs et tous ces films sont détaillés. Et puis on a sorti un DVD. Alors les DVD, ça paraît ancien, mais en fait les gens, ils aiment bien avoir un objet. Et on a sorti un DVD à l'occasion de la sortie des fils qui se touchent, là, ce dernier film. Mais sur ce DVD, on a mis la trilogie avec La bataille de la plaine et La fête est finie, qui racontait la capitale européenne de la culture à Marseille en 2013. Et en fait, ces trois films font vraiment une très belle trilogie. C'est hyper cohérent, historiquement parlant, de voir Marseille il y a 10 piges, il y a 5 piges, et aujourd'hui, avec une réflexion sur l'évolution de la ville et la mémoire et tout ça.
Ben, merci Nico. Donc du coup, rendez-vous sur primitivi.org.
Absolument. Primitivi avec que des i. PRIMITIVI.
Super, merci Nico. C'était les Odeux de la presse avec Cyril Bosque pour le Centre des arts satiriques et Nicolas pour Primitivi. À la semaine prochaine, d'ici là.
On va s'interroger ton stylo.